RMC Intégral Sport.
Georges Quirino.
On est là tranquille avec Stephen Brun jusqu'à 20h avec vous au 32-16 et sur WhatsApp au 06-12-84-424. Hein. N'hésitez pas, hein, comme Steve, si vous avez des messages à faire passer sur ouais, j'ai pas de place pour aller voir Jay-Z au Stade de France.
Si, j'ai pas dit que j'ai trouvé les places, mais c'est un peu cher par contre.
Ah bah oui, c'est un peu cher. Tiens, je vous donne des petites informations. Tiens, on va parler du 15 de France dans un instant avec Aaron Grandidier, l'ailier, après la tournée pour l'instant réussie, enfin le championnat des nations de nos bleus. Quelques petites infos foot. Tu sais que ça y est, Rudy Garcia. Déjà terminé, plus avec sélectionneur de la Belgique, ouais. Battu en quart de finale par l'Espagne. C'est moi, j'en aimais bien Rudy Garcia.
Ouais, il était un peu fantasque en conf de presse.
Il faisait, il faisait
des belles leçons de football. Rappelez-moi que 1-0, il ne faut pas.
Ah ouais, c'est un personnage que j'aime bien.
Moi, ouais, il me dérange pas.
Et puis tiens, Rudy Garcia, il a été coach de l'Olympique Lyonnais à une époque. Hein. L'OL qui connaît son adversaire pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions.
Qu'est-ce donc ?
Eh ben, ce sera le Sparta Prague, figure-toi. Le 18 ou 19 août, avec en ligne de mire un ticket pour la phase de Ligue. Sparta Prague, c'est vraiment le match de barrage de Ligue des Champions.
Ouais, typique.
Soit t'es là, soit en Ligue Europa. Conférence League peut-être un peu, mais bon voilà, on sait qu'il n'y a pas de match facile pour l'Olympique Lyonnais qui va devoir effectivement essayer de tout faire pour se qualifier en Ligue des Champions. Journée de repos où là c'est gratuit, tu sais, ça coûte pas 15 000 dollars pour aller voir le Tour de France, par exemple.
Et oui, c'est même gratuit. Si, rappelle-toi, ouais. On avait commencé à des petites polémiques en disant ce qu'il faut pas faire payer pour aller voir le Tour de France.
Ouais, c'est Jean Pinot qui l'a enclenché. <Oui. rire> C'est parti de chez nous, hein, t'inquiète pas. Hein. Enfin, c'est parti des Visma aussi qui avaient proposé ça. Le Tour de France, oui, on rentre dans la dernière semaine de la Grande Boucle, là ils sont en train de se reposer aujourd'hui, et pour son premier tour à 19 ans, Paul Sexas peut-il encore rêver d'un podium? Le Français nous a donné des frissons cette semaine, vous l'avez vécu sur RMC dans l'Intégral Tour.
Ouais, c'est malgré tout une bonne journée, j'ai un quatrième en haut du plateau de Soleil-Zon, on savait que c'était l'une des étapes.
Alors là, vous écoutez Julien Jordi, hein, le directeur sportif de Decathlon CMA CSGM. Moi, je voulais qu'on se remette dans les frissons comme ça, avec les commentaires de Christophe Cessieux, Pierre-Yves Leroux. Mais non, mais moi, les frissons, de toute façon, je les ai tout de suite en accueillant Richard Virenque, notre consultant. Salut
ça,
Richard.
C'est d'autres frissons, mais qui ne réagissent pas.
Ouais, bon, c'est pas tout jeune, hein, c'était il y a quelques années. Mais bon, bonsoir à tous.
Salut Richard.
D'être avec vous ce soir. Salut.
Bon, Richard. Tiens, Richard, avant, j'ai envie de te poser une question. Tiens, quand arrive la deuxième journée de repos sur le Tour de France, on se dit, ouf, enfin, on est comment quand on est sur le Tour?
Alors, quand on est sur le Tour, et je vais parler pour moi, hein, j'étais content d'être la deuxième semaine parce que généralement, tout le monde est un peu cramé. Et c'est là où les choses sympas commencent. C'est-à-dire que souvent, il y a pas mal d'étapes de montagne et on peut commencer à agir sur la course. Et ça va être le cas. Donc, on se sent très motivé. On sait pourquoi on est venu. On est très concentré. Les journées de repos sont faites pour un peu décompresser, mais pas vraiment. Il faut rester concentré. C'est-à-dire une journée de repos, on va sortir le vélo. On va sortir au moins le vélo pendant une heure et demie. On va aller faire 60 km, quoi. Hein. C'est du repos actif.
Ouais, voilà. Tu te faisais pas péter une petite grasse mat sur les jours de repos, Richard?
Non, mais en fait, tu dois, pour pas dérégler ton organisme, tu dois te le réveiller quasiment. Ouais, un peu quasiment comme toujours.
Ouais.
Pour, voilà. Et le mat, par contre, le petit déjeuner, généralement, tu manges parce que tu as une étape de 200 bornes. Par contre, si t'as pas 200 bornes là, par contre, c'est plus light.
Ça fait péter. Ah, c'est plus light.
Juste un petit yaourt, quoi. Un petit yaourt.
Un petit yogourt, sans sucre.
Voilà. Donc, plus light. Mais par contre, t'as plus de temps le matin. Tu prends plus de temps pour toi. Généralement, il y a la famille qui passe vers là. Mais moi, je préférerais rester dans ma bulle. Parce que forcément, la famille là, tu dois pas rester cloîtré dans ta chambre. Parce que quand tu sors dehors, moi, mon problème, c'est quand je sortais dehors.
Ouais, t'étais un peu populaire.
T'étais une superstar.
Trois personnes qui voulaient me voir et qui voulaient boire des canons avec moi. Donc, comme je pouvais pas boire de l'alcool, c'était compliqué de pas partager des moments avec eux. Donc, j'étais obligé de m'isoler un peu. Et voilà. Donc, voilà. C'est destiné à la récupération et à la concentration, on va dire.
C'est pour ça que tu vois, Stephen n'aurait jamais pu être cycliste sur le Tour de France. Hein. Pas de grasse mat, pas pouvoir aller voir un canon avec modération avec les
mais l'avantage qu'avait Richard à l'époque par rapport à aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, il passait pas sa journée sur son téléphone à scroller sur tous les réseaux sociaux.
Donc,
là, aujourd'hui, les coureurs, ils restent dans leur chambre à regarder toutes les conneries qui existent.
T'as raison, c'est plus du tout pareil.
C'est sûr, mais bon, je dirais, on regarde plus ce qu'il nous reste à faire. on se voit avec les équipiers. Voilà, on reste très concentré. En tout cas, dans le Tour de France maintenant, là, que si je peux parler des coureurs de ce tour-là aujourd'hui, il y a une quinzaine de coureurs qui vont être concentrés sur la journée de repos.
Tu m'étonnes.
C'est ceux qui vont être demain intéressés pour le contre-la-montre, donc ils vont être super focus de la journée d'aujourd'hui pour préparer déjà le contre-la-montre. Ceux qui jouent le général et qui se disent ah, attends, je peux remonter deux places, trois places, et ben eux ils sont focus. Mais tout le reste du peloton, ah ben eux ils sont quasiment en vacances.
les doigts de pied en éventail devant le
nation. Il reste quelques étapes de montagne où les vacances, c'est les vacances en souffrance un peu quand même, Richard.
Ouais, ah oui, non mais c'est pour ça. Mais il y a pas mal de coureurs qui traînent entre guillemets leur misère dans le tour, parce que quand c'est dur, ils sont dans le groupe Eto derrière et ils souffrent. C'est de la pure souffrance. Donc il y a vraiment peut-être 50-60 coureurs qui sont un peu acteurs maintenant dans la dernière semaine. Tout le reste, ils vont partir, ils vont se faire larguer. Et le but, c'est d'être tous ensemble pour être dans le groupe Eto, c'est-à-dire pas se faire éliminer. Donc ça va être une semaine particulière pour eux, mais bon, ils vont pouvoir aider les équipiers un peu au départ, dans les 20-30 premiers kilomètres, mais après c'est un peu... pas sauf qui peut, mais il faudra rester dans les délais pour arriver tous à Paris. C'est aussi une chose importante.
Richard, je ne vais pas trahir un secret, mais je peux te dire que toute l'équipe de l'Intégral Tour, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Jérôme Coppel, Maria Azé, c'est détente aujourd'hui. Avant de repartir pour la dernière
ils
semaine.
Ont bien raison, ils ont bien raison.
Bon, Richard, évidemment, Richard Virenque avec nous. On voulait parler avec toi de Paul Sexas, bien sûr, là, qui fait frissonner un peu les supporters français. On est avant le début de la troisième semaine. Il est quatrième du général actuellement à 6 minutes 23 de Pogacar. Bon, alors je dis de Pogacar, mais en vrai, l'intérêt n'est même pas vraiment là. Il a une trentaine de secondes de Del Toro, troisième. Il est assez proche également, à une minute, un peu plus, d'Evenepoel. Comment tu le trouves jusqu'à maintenant, Richard, là ? Parce que c'est vrai qu'il était en territoire inconnu, hein, même pour lui. Il n'a jamais fait une course de trois semaines. C'est son premier tour, il a 19 ans. Tu le trouves comment jusqu'à maintenant ?
Franchement, il est épatant. Il est épatant et tu sens vraiment que c'est quelqu'un, en tout cas un coureur français... à part de ce qu'on a vu depuis beaucoup d'années. Donc ça c'est déjà une chose. Pourquoi ? Parce que son âge et les résultats qu'il a fait depuis le début de saison, ça reste de l'exceptionnel. Donc voilà. Et pour le tour, il avait un peu la pression. On a fait quand même deux semaines de course. Il y a eu quand même des rendez-vous importants. Tous ces rendez-vous-là, il a été présent. Donc maintenant, il est placé en quatrième position. Il a un beau truc à jouer demain dans le chrono et les étapes de montagne, eh ben on verra. Mais en tout cas, quoi qu'il en fasse, il fera toujours dans les 10 premiers de ce premier tour et ça sera toujours, on va dire, un super tour pour une première année à 19 ans. Parce que c'est du jamais vu. C'est du jamais vu chez les Français. C'est pour ça que quelque part, quoi qu'il fasse, le jeune, eh ben c'est super. C'est sûr que on aimerait se dire punaise, ça serait super qu'il fasse podium. Alors un, c'est possible, mais deux, tout est possible dans l'autre sens. Regardez, un coureur cycliste, il est fragile. Il est fragile par rapport aussi à son physique. Il est fragile aussi par rapport à la malchance. Regardez Jonas Vingegaard, il était là pour faire deuxième du tour ou pour essayer d'attaquer, pour essayer de le gagner. Oui. Il est sorti sur chute avec une clavicule. Paul Sexas, il était au Tour d'Auvergne il y a un mois pour essayer de le gagner. C'était son retour. Il était en forme, il est arrivé, le troisième jour il est tombé, ouais, il a abandonné.
Il s'est un peu enflammé, il s'est un peu dans l'euphorie et il est tombé. Donc, il faut gérer ses émotions aussi.
Voilà, ouais, il faut gérer. Bon, après, peut-être s'il lui faut un contrôle à 1h du matin ou à 3h du matin, peut-être il va tomber après-demain. Je sais pas.
C'est ce qui s'est passé avec Vingegaard et Pogacar.
Richard, tu penses vraiment que ça a eu un impact sur la lucidité de Vingegaard, ce qui s'est passé ?
On rappelle, il y a eu des contrôles à 2h et 5h du matin hein, pour les.
Ouais, alors,
tu dors pas beaucoup.
Franchement, à ce niveau-là, ça peut le jouer. Parce que imagine, tu te couches tard, tu as du mal à trouver ton sommeil. D'accord ? De toute façon, quand tu n'as pas de chance, tu n'as pas de chance. Hein. Donc, tu as du mal à trouver ce sommeil ce jour-là, tu as du mal. Donc, au lieu de te coucher à 10h30, tu vas te coucher vers les minuit. Voilà, parce que tu as du mal, tu es énervé, tu as du mal. Tu commences à dormir. Tu n'as pas fait 1h30 de sommeil que d'un coup, tu as un mec qui te tape à la porte. D'accord, c'est pas pour te masser, mais c'est pour faire un contrôle inopiné. Donc là, qu'est-ce que, là, ton sommeil, tout ça, c'est en l'air. Donc le lendemain, quelques heures après, il va se recoucher, bien sûr, à 3h, 3h30. Mais à 6h, il va se réveiller. La nuit, elle a été, c'est plus pareil. Et comme il était dans une étape très importante, et on l'a vu, les Visma, ils ont pris la course en main, ils ont commencé à rouler toute l'équipe devant, et ils roulaient pour l'envoyer sur une lampe de rancement. À un moment donné, la concentration, alors je ne veux pas dire c'est parce qu'il avait eu l'origine des sommeils, je ne sais pas, mais en tout cas,
c'est pas neutre.
Ça ne lui a pas fait du bien.
Ouais, c'est pas neutre, effectivement. On est avec, voilà, avec Richard Virenque. Tiens, Richard, on le disait, donc pour Paul Sexas, quatrième actuellement, il est deuxième au classement du maillot blanc de meilleur jeune à 25 secondes d'Isaac Del Toro, qui est le coéquipier chez UAE de Tadej Pogacar, évidemment. Tiens, l'équipe UAE qui a dit par la voix de Machin, l'un de ses directeurs sportifs, que Sexas était désormais le nouveau rival avec le fait que Vingegaard avait abandonné. Parce que bah, le nouveau rival, parce qu'ils ont envie d'envoyer Del Toro également sur le podium du Tour de France. Est-ce que tu penses que le fait que UAE dise ça, ça rend la mission podium presque impossible pour Sexas? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas le laisser partir?
Non, je pense que déjà, Sexas, demain, il va reprendre la tunique du meilleur jeune. Ça, je pense que dans le chrono, il va lui coller.
Il va plier Del Toro.
Chrono de 26 km, voilà,
ça va être fait. Mmh. Et après, moi, je serai Sexas, et ben, je me cale dans la roue de Del Toro. Jusqu'à l'Alpe d'Huez, et on voit venir. Et si c'est le cas, il s'occupe de rien d'autre que Del Toro. Pour pas être, tu vois, avec des Pogacar, avec Rinko, qui est deuxième au général, il faut qu'il se cale que sur lui. Et comme on a compris que UAE, ils savent qu'ils ont gagné le tour,
oui,
mais Pogacar, lui, ce qu'il veut, il veut que son pote, il soit sur le podium. Donc, ils vont tout calquer la course sur Del Toro. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben lui, il se calque la course sur Del Toro et il le suit. À chaque fois, il le suit. Mmh. Par contre, quand il va arriver dans les derniers kilomètres, s'il sent qu'il a la soquette légère et qu'il peut lui en coller une, eh ben il lui en colle une.
Voilà. Richard, toi ou les deux Jérôme, j'adore toujours ces expressions, la soquette légère. Mais... En fait, c'est les expressions de l'été, c'est ça qu'on kiffe. Tiens, Richard, Steve, on a un auditeur en 32-16 qui nous appelle, qui voulait parler du Tour de France, c'est Thomas. Salut Thomas.
Salut les gars.
Bonjour Thomas.
Bien. Bah ouais, très bien. Écoute, tu sais qu'on est avec Richard, en plus,
il y a
l'odeur de l'été et tout ça.
Tiens, je suis reprise.
Thomas, je te pose la question. Si Sexas rate le podium, ce sera décevant pour toi?
Non, pour moi, ce sera absolument pas une déception parce que, comme l'a dit Richard Virenque tout à l'heure, il a 19 ans. C'est de l'ordre de l'exception ce qu'il est en train de faire. Ce qui est important cette semaine, ça va être de voir s'il est capable de suivre vraiment dans la route Pogacar cette semaine. De dépasser Del Toro. Je trouve que pour l'instant c'est que ça a été beaucoup plus régulier que Del Toro lors des étapes. Après, encore une fois, on a vu ce qui s'est passé avec Vingegaard hier. On sait pas, il peut y avoir un accident, une chute, ça peut être compliqué à ce niveau-là, mais pour moi il est beaucoup plus fiable que Del Toro. Et j'espère que dès demain, il pourra reprendre le maillot blanc.
Après, Del Toro, l'avantage qu'il peut avoir sur Sexas, c'est qu'une troisième semaine de tour, il connaît. Il était là l'année dernière, que Paul Sexas, là, il rentre dans quelque chose qu'il n'a jamais fait, hein, Richard. Une troisième semaine de compétition, on ne sait pas. C'est la découverte de l'inconnu pour Paul Sexas.
Il a un autre avantage aussi, hein. C'est qu'il a la France derrière lui.
Oui.
Vous savez.
Ah, bah tu sais ce que c'est, toi, Richard.
Ah, bah oui. Non, mais je peux te vous dire qu'il faut être sourd et aveugle pour pas s'en rendre compte. Mais quand il va être sur le vélo, là, dans l'école, dans le chrono ou dans l'école, il va avoir, des boîtes en plus, hein. Parce que moi, franchement, sans le public, j'étais 20-30% moins fort. Et avec le public, j'arrivais à me à partir dans un état second et Sexas, je pense s'il arrive à ça, il va trouver de la force supplémentaire. Donc il y a ça. Et aussi l'important pour Sexas cette année, c'est quoi? C'est de finir le tour,
oui,
pour prendre de la caisse, parce que chaque coureur qui le fasse à 23, 25, 27 ans, son premier Tour de France, quand on finit le premier tour, quand on finit un tour, on prend de la caisse. Et ça, c'est l'objectif de Sexas. C'est de finir totalement ce tour. Et ben, s'il le finit en bonne position, et ben, ça va être super pour la suite. S'il le finit un peu moyen, et ben, ça va donner, on va dire, on va pouvoir se projeter pour l'avenir avec lui.
Et Richard, est-ce qu'il faut se méfier de Lipovic et Ayuso qui sont derrière Sexas?
Pour moi, Lipovic, il est toujours en sur-régime et c'est sûr que il va tenter quelque chose, mais il faut qu'il laisse tout avant Del Toro faire le job, parce que Lipovic, quand il va attaquer, c'est à qui d'y aller? c'est à Pogacar et à Del Toro.
Oui, s'ils veulent absolument défendre le podium de Del Toro, t'as raison. Maintenant, il va falloir qu'ils se découvrent aussi sur ça. Tiens, Thomas, au 32-16, Thomas sur Paul Sexas, là, t'as écouté Richard, hein, Richard dire quand j'étais en montagne, c'était 30% d'énergie en plus. Il reste plein d'étapes de montagne. Il y aura le chrono demain, il y aura une étape accidentée, ensuite mercredi, et ensuite, il y aura arrivée en altitude à Orcières-Merlette. Il y aura deux arrivées en altitude à l'Alpe d'Huez. Ah, quelle bon. Folie. Thomas, tu préfères voir quoi? Un podium de Sexas ou un podium qui gagne à l'Alpe d'Huez, s'il faut choisir?
Alors, je pense un podium de Sexas parce que c'est ce qu'on va retenir pour les années à venir. Mm. Et puis, oui, c'est vrai que Richard parlait justement de cette énergie supplémentaire qu'on a quand le public nous soutient. Bon, on peut reprendre l'exemple de Thibaut Pinot en 2023. Hein, on voyait bien que c'était exceptionnel, que quand on est poussé, on gagne peut-être 5-10 secondes de plus. C'est peut-être quelque chose qui peut faire la différence, surtout avec les étapes qui vont s'enchaîner de haute montagne. C'est ce qu'on en espère, en tout cas, pour Paul Sexas. Oui.
Richard, est-ce qu'il faut faire une croix sur une victoire d'étape française?
Non, parce que, en fait, l'année passée, on était dans une situation la même, d'accord? Et Valentin Paré-Pinte, il est allé se claquer le grand tout. Donc, écoute, parce que là, il reste des opportunités. Hein. Donc, les opportunités, il y a quelques Français, il ne faut pas oublier qu'il y a Lenny Martinez qui ronge son frein là, depuis deux semaines.
Donc, il est loin en général, en plus, maintenant. Il est 8e à 10 minutes, donc il n'est pas en danger.
Pas encore assez loin. Donc, il faudrait qu'il décroche plus.
Bah après le chrono, demain, il sera plus loin. Il faut qu'il lâche au chrono demain.
Il faut qu'il prenne 6 minutes demain dans la tête. Quoi.
Exactement. Voilà, demain, il faut qu'il finisse avec le groupe Eto. Et après, il se lance dans le combat. Lui, il peut gagner une étape. Après, il y a Romain Grégoire, champion de France. S'il est dans une échappée, c'est quelqu'un qui a aussi qui est très bon, qui a un super jump. Il peut aussi l'emporter. Donc, il y a Kevin Vauquelin. Vauquelin qui a été le meilleur Français l'année passée sur le Tour de France, 7e. Il a du mal à trouver un peu la truc, mais j'ai l'impression qu'il revient de plus en plus. Mmh. Et il a besoin de montrer qu'il n'a pas vraiment loupé son tour. Donc c'est un garçon aussi qui peut, dans les étapes difficiles, se retrouver dans une échappée devant et aller claquer une étape. Donc mais il faudra patienter jusqu'au dernier jour. Mmh. Ça va être compliqué. En tout cas, celle qui va être gagnée prochainement, ça sera une étape de costaud. Et on a quelques Français qui sont pas mal.
Oh, hey, Richard, tu sais quoi, j'avais presque plus d'espoir pour les Français là. Tu nous as parlé. Ouais. J'ai 20 à 30% de plus d'espoir grâce à Richard.
Ou alors, t'es peut-être un énorme menteur, par contre, Richard.
C'est là.
Je suis enthousiaste.
On s'enthousiasme évidemment avec toi et on est heureux de t'avoir sur RMC sur le Tour cet été, sur les grosses étapes de l'Intégral Tour, dans l'After Tour à midi aussi. Évidemment, c'est un bonheur de t'avoir avec nous, Richard. Merci, Richard.
Merci beaucoup, Richard.
On se retrouve évidemment demain sur les antennes d'RMC et je remercie Thomas de nous avoir appelé au 32-16. On continue de parler du Tour de France dans un instant. Tiens, on va parler, Richard, il parlait des contrôles là, qu'il y a eu pour Vingegaard et Pogacar. On va vous donner quelques informations en plus dans un instant. Et puis on sera avec Raphaël Jeune, le manager de l'équipe Cofidis.
Ils sont revenus positifs, les contrôles?
Non. Oui, t'as raison, c'est bien de le dire tout de suite. On n'a pas ces infos-là, hein, ne vous enflammez pas, parce que là, sinon, c'est le teasing le plus dingue de l'histoire. Allez, on revient dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Georges Quirino.
Avec Stephen Brown, ensemble jusqu'à 20h. Il est 19h22 sur RMC. Ça me donnait un pêche d'être avec Richard Virenque il y a quelques instants.
Il était bonheur, Richard.
Ah, kiffe, Richard. Évidemment, dans un instant, on va parler de rugby. Le 15 de France qui a été à 2 victoires, 1 défaite dans le championnat des nations. Victoire face au Japon ce week-end. On sera avec Aaron Grandidier, l'une des nouvelles figures de ce 15 de France, lui qui avait été champion olympique en rugby à 7. Il fait partie des garçons qui ont marqué des points dans l'hémisphère sud. Pierre Thévenet sera avec nous dans un instant et on va pouvoir l'interviewer. Mais d'abord, on est toujours sur la route du Tour de France où se trouve sur cette journée de repos Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Georges, salut.
Salut Clément.
Bon Clément, on était il y a quelques instants avec Richard Virenque qui nous a parlé de ce qui s'est passé il y a deux nuits plus tôt avec Jonas Vingegaard avant son abandon et Tadej Pogacar. Ce sont ces contrôles nocturnes antidopage inopinés pendant la nuit à l'hôtel à 2h et 5h du matin si je me trompe pas, ça a beaucoup fait réagir évidemment. Tu as eu quelques informations supplémentaires aujourd'hui Clément?
Exactement, oui, ça a pu perturber aussi le sommeil des coureurs, hein, lien de cause à effet ou pas, mais Vingegaard, on le rappelle,
lourdement tombé le lendemain, l'obligeant à déclarer forfait pour la suite du tour. Donc ça a beaucoup fait parler. Donc aujourd'hui, on a contacté l'ITA, qui est l'agence internationale du contrôle, afin d'en savoir un peu plus sur ces pratiques nocturnes. Surtout, ce qu'on nous a dit, c'est que les contrôles ne sont jamais aléatoires et que s'il y en a eu, eh bien c'est qu'il y avait une demande d'analyse de risque. On a également appris dans la journée que l'ITA, ce fameux organe, a eu la validation d'un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Donc un juge parisien a autorisé finalement cette descente afin de légaliser la descente dans les hôtels à 16 heures précises surtout. Donc tu l'as rappelé, à 5h et à 2h du matin pour Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Selon le texte, ce juge peut valider cela en cas de connaissance de soupçons graves et concordants de dopage ou de risque de disparition de preuves. Donc on a relancé l'ITA en leur mettant vraiment sous les yeux ce qu'on avait du texte du juge. Et il y a quelques heures, l'ITA nous a assuré que ce contrôle nocturne ne doit pas forcément être interprété comme l'indication qu'une violation des règles antidopage avait été commise.
Intéressant, évidemment, d'avoir cette information, Steve.
Oui, enfin, intéressant d'avoir la confirmation que c'est pas parce qu'il y avait des soupçons de dopage ou de fuite éventuelle que ces deux garçons-là ont été ciblés. Après, c'est quand même, enfin, je sais pas si c'est curieux que ce soit le leader et son dauphin qui soit contrôlé comme ça en plein milieu de la nuit. Le contrôle antidopage est dans le cyclisme, il en faut, parce que et même les deux protagonistes l'ont dit, hein, Vingegaard et Pogacar, oui, on veut des contrôles antidopage. Après, est-ce que des contrôles antidopage qui nuisent un petit peu à la performance et à la compétition, parce que là c'est quand même
un
désagrément complet.
Bah, surtout le lendemain, Vingegaard est tombé, voilà, abandonné. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément de lien de cause à effet, mais on est obligé d'y penser.
Le problème, c'est que t'interviens directement sur la performance du garçon en pleine nuit. Après, c'est aussi la définition d'un contrôle inopiné, mais écoute, je trouve ça un petit peu curieux le timing. 2h du mat, mec, 2h du mat, c'est sévère.
Ah oui, dans le milieu de compétition, évidemment. Bon, merci Clément Brossard de nous avoir donné toutes ces informations très claires, évidemment, parce que c'est un sujet qui va peut-être continuer de faire parler. On est sur l'étape de repos du Tour de France avant le début de cette troisième semaine. Demain, il y aura un contre-la-montre, on vous rappelle, entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains, et on est avec un des acteurs de ce Tour de France, c'est Raphaël Jeune, le manager général de l'équipe Cofidis. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir
Raphaël.
Et merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC. Tiens Raphaël, une question d'actualité. On était il y a quelques instants avec Clément Brossard qui nous parlait effectivement de ces contrôles là pendant la nuit avec Pogacar et Vingegaard. J'imagine que ça fait beaucoup parler dans les équipes sur le fait qu'il y a eu ces contrôles très tardifs à 2h et 5h du matin. C'est une bonne chose? C'est trop? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, je pense que, alors, sur les commentaires qu'a fait l'ITA, je ne vais pas revenir sur ça parce que c'est l'organisme qui gère ces contrôles antidopage, donc on va se ranger derrière les commentaires de l'ITA. Et puis après, sur l'heure des contrôles, évidemment, je pense que le cyclisme, et il faut des contrôles, il y en a de plus en plus, on le voit, hein, toujours. Mais c'est vrai que les heures tardives, comme ça, peuvent générer bien des maux après et peut-être des chutes, comme on l'a vu pour Jonas. Et je pense qu'on est le seul sport à accepter ça pour justement prouver tout ce qu'on peut chercher dans le cyclisme.
Vous en avez déjà eu, vous, comme ça, des contrôles en plein milieu de la nuit? En fait, comment, pour que le grand public qui nous écoute comprenne bien, comment ça se passe, en fait? C'est quoi,
On n'a pas eu de contrôle aussi tardif ou aussi matinal. Je ne sais pas si on dit tardif ou matinal, hein, ça peut être tardif et matinal. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu des contrôles qui sont assez matinaux, vers 7h, 7h30 du matin, quand même. Oui, et sur le Tour de France.
Mais c'est
oui.
Quoi, du coup, vous, le manager de l'équipe, c'est quoi? Vous recevez un message, par exemple, comment ça se caractérise, en fait? Vous êtes prévenu et vous devez ouvrir la porte de vos coureurs?
Oui, c'est plus le docteur référent de l'équipe qui est sur le Tour de France qui est prévenu que les contrôleurs sont à l'hôtel, dans tous les hôtels où se trouvent les équipes du Tour de France. Il y a une salle dédiée à ça. Les hôtels, en tout cas, mettent à disposition une salle pour que le contrôle antidopage se passe de la meilleure des manières. Et ensuite, eh bien, les coureurs tirés au sort ou l'équipe tirée au sort, ben, passent un par un.
Ouais, non, mais pour le coup, je trouve ça hyper intéressant et pédagogique qu'on puisse expliquer, parce qu'il y a tellement de fantasmes sur ça. Parce que voilà, vous n'êtes pas en position de refuser, par exemple. Si vous refusez, si vous dites, ah ben non, là il dort, mon coureur, vous êtes sanctionné, en fait.
Ah oui.
Ben oui, effectivement, on a des sanctions et puis ça peut être des no-shows. Donc évidemment que je ne pense pas que dans l'histoire du cyclisme, il y a un coureur qui a refusé de se soumettre à un contrôle. Hein.
Ouais, exactement.
Et encore une fois, on est le seul sport, oui. Et je tiens à le préciser, le seul sport au monde à accepter autant de contrôles.
Non, mais ça, il faut le dire.
Je t'annonce que dans le tennis, Federer, Djokovic, Nadal, il n'y avait jamais un mec à 3 heures du matin qui les réveillait en plein tournoi du Grand Chelem pour faire une prise de sang ou pour faire un test urinaire. Ça n'existe pas. Il a raison de dire que c'est que dans le cyclisme. Federer, il ouvre pas la porte.
Non, mais c'est vrai qu'on tape beaucoup sur le cyclisme souvent, mais c'est aussi le sport qui en fait le plus finalement pour chercher et essayer de faire quelque chose. Donc c'est important d'en parler. Raphaël Jeune, manager général de l'équipe Cofidis, qui est avec nous dans cette deuxième journée de repos. Raphaël, on est sur un tour ultra rapide où il y a eu beaucoup de chaleur au début. Il y avait eu une étape là, la 11e, qui a été courue à près de 51 km/h de moyenne, l'étape la plus rapide de l'histoire. Là, vos coureurs là, ils sont comment? Ils sont rincés plus que jamais. Comment on utilise cette journée de repos?
Non, paradoxalement, ils sont pas aussi rincés qu'on veut bien le dire. Évidemment que ça roule vite. Hein. On voit que le matériel évolue, les routes évoluent aussi, les positions sur les vélos évoluent. Donc c'est un tout qui fait que ces vitesses vont de plus en plus vite. Mais je trouve que j'ai pour habitude de rouler un petit peu avec eux le jour de repos et je trouve qu'ils sont tout de même assez joueurs. Donc avec certains coureurs, on a pu faire quelques petits efforts ce matin. Donc s'ils étaient vraiment rincés, ils n'auraient pas fait d'efforts. Donc non, et puis la chaleur évidemment que toutes les équipes, hein, et pas que Cofidis, a mis des moyens en place avec des camions frigorifiques, avec des bains glacés, avec beaucoup de bidons et de passages ravitaillement pendant les étapes. Et du coup, je pense que, alors, évidemment qu'ils sont fatigués, on fait pas deux semaines de course comme ça à ces vitesses-là sans être fatigué. Mais j'ai déjà fait de nombreux Tours de France auprès d'équipes et j'ai vu auparavant des coureurs qui étaient bien plus fatigués que ceux de Cofidis actuellement.
Ouais. Et Raphaël Jeune, manager général de l'équipe Cofidis, avec nous. Raphaël, on le disait il y a quelques instants là, même avec nos auditeurs et avec Richard, que voilà, il y a toujours pas de victoire française pour l'instant. Et c'est aussi
ça va tomber chez Cofidis ou pas?
déjà on va poser la question.
J'espère que s'il y en a une victoire française, elle devra tomber chez Cofidis. Non, mais j'ai pas beaucoup de Français au départ du tour.
Et bien sûr, il y en a deux dans l'équipe effectivement.
Exactement.
Non mais Raphaël, en fait la question, voilà, on parle des Français, mais je pense une question qui se pose dans beaucoup d'équipes. C'est vrai que là, c'est difficile d'exister aujourd'hui dans le peloton avec une équipe, l'équipe UAE, pour ne pas la citer, qui cadenasse quand même beaucoup de choses. Comment on peut exister, en fait, dans un tour qui est parfois verrouillé de cette façon?
Mais en fait, il faut, nous, chez Cofidis, on a depuis très très longtemps anticipé l'équipe du tour. Les coureurs qui font le tour le savent quasiment depuis décembre, en tout cas 80%, les 20 derniers pourcents l'ont su début mai. De cette manière, ils ont le temps de se préparer psychologiquement, physiquement évidemment. Et puis après, en fait, la sélection de l'équipe, on l'a fait avec ma cellule performance et direction sportive, en fonction justement des étapes qui étaient sur le Tour de France. Et par exemple, si je prends évidemment notre cas de Cofidis, on n'avait personne cette année pour le classement général parce qu'on a bien vu que de toute manière, faire 15e ou 20e ou 25e du tour, ça n'amenait rien du tout, aucune visibilité. Donc on a préféré se concentrer sur des victoires d'étape, alors qu'on n'a pas eu pour l'instant, hein, mais en tout cas peser sur la course et essayer de tenter des victoires d'étape et être acteur plutôt que d'un hypothétique classement général. Et après, sur ces victoires d'étape,
non, mais en fait, Raphaël, c'est très simple pour que nos auditeurs et auditrices comprennent. Être 15e du tour, on sait qu'aujourd'hui, dans l'économie du vélo, c'est très difficile de continuer à exister. Il faut de plus en plus d'argent, on le voit. Avoir, par exemple, pour vous, un vainqueur d'étape à l'Alpe d'Huez dans l'une des deux dernières étapes, je vous le souhaite, hein, mais c'est quelque chose qui changerait tout. Évidemment, ça change tout.
Alors, ouais, je peux déjà vous affirmer qu'on ne gagnera pas l'Alpe d'Huez. Ça, c'est sûr. On vise d'autres étapes que celle-ci parce que justement l'équipe a été orientée pour d'autres étapes, notamment les sprints avec Milan Fretin, qui est un jeune coureur qui effectue son premier Tour de France. C'est la première fois que Cofidis a mis un vrai train à sa disposition. Et dans toutes les étapes arrivant au sprint, on a pu voir que le train Cofidis, il y a quelques petits réglages à faire, hein, mais fonctionnait très bien. On est même allé jusqu'à la 4e place. On sait maintenant que Milan Fretin a une victoire d'étape dans les jambes. On l'a on l'imaginait en venant sur ce tour. Ouais. On a vu sur ce tour qu'il pouvait, parce qu'encore une fois, il est jeune. Bien il faut sûr. Qu'il prenne la température du Tour de France. Et puis après, ben, nos deux autres cartes sont Yann Izaguirre et Alex Aramburu, qui sont plus des punchers. Puncher, grimpeur pour Yon, mais pas grimpeur de la gagner l'Alpe d'Huez.
Bien sûr.
Je serais le premier surpris et le premier très très heureux. Mais en tout cas, on a bâti l'équipe comme ça et il reste pas beaucoup d'étapes.
Bah, hein, c'est ça, bah, Raphaël, on a bien compris. Hein, Raphaël, on a bien compris. On vous souhaite bonne chance pour mercredi Chambéry-Voiron et jeudi entre Voiron et Orcières-Merlette arrivée en altitude. Merci beaucoup, Raphaël Jeune, manager de l'équipe Cofidis. Évidemment, toujours intéressant d'être au cœur des équipes et même pour nous expliquer comment ça se passe, les contrôles toc-toc pendant la nuit.
Les contrôles et puis les objectifs que ces équipes-là, petites équipes entre guillemets, peuvent avoir. Et
comment exister
et comment exister, voilà, c'est important. Comment montrer le logo, parce que c'est les sponsors Cofidis, ils sont là pour
qu'on puisse voir. Ce sont les équipes de marque. Exactement. Il faut toujours le rappeler et ça sert évidemment aussi à le Tour de France.
Cofidis.
Ouais. Du coup, il faudrait que je donne deux autres compagnies de crédit et elles ne viennent pas à la tête, à l'esprit tout de suite. Ouais, voilà. Et une autre, on a une autre.
C'était l'aime.
Voilà. Merci. Je t'en remercie pour ça. C'est pour ça qu'on est à deux sur l'Intégral Sport. Allez, tout de suite le rugby, le 15 de France a le sourire en venant de l'hémisphère sud. On va en parler avec Pierre Thévenet et notre invité, l'ailier Aaron Grandjean. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Georges Quirineau.
Allez, la dernière ligne droite, on est avec Stephen Mann qui est revenu grande forme de ses vacances.
Je suis content.
Ouais.
J'ai pas fait une seule émission de l'année avec toi et je suis très content d'en faire une.
Bah ouais, franchement, on passe un bon moment.
Bien sûr, on passe un bon moment. On m'a dit que c'était un mec, un encore man de très haut niveau, je le confirme.
Bah écoute, j'essaie d'avoir de l'humilité, mais là, du coup,
j'ai l'impression qu'on fait une émission très correcte.
Ah, on fait une émission très correcte, je pense, depuis le début, avec vous aussi, grâce à vous au 32-16 et vos messages sur WhatsApp au 06-12-424-424. Dans un instant, à 20h, vous allez retrouver Gilbert Bribois pour l'afterfoot et toutes ses équipes. Évidemment, le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, on a parlé du Tour de France, on a parlé foot, bien sûr, on va parler rugby tout de suite, puisque le 15 de France revient de l'hémisphère sud. Pierre Thévenet, une des voix de rugby de RMC, est avec nous. Salut Pierre.
Salut Georges, salut Stephen.
Salut Pierre. Parce que le 15 de France a fini sa tournée, je le disais, dans l'hémisphère sud, qui n'est plus une tournée. Hein,
championnat des nations.
Intégré dans le nouveau championnat des nations. Pour l'instant, donc, c'est deux victoires, une défaite pour nos Bleus, défaite inaugurale face aux Blacks 34-32, ça ne s'est pas joué à grand chose. Et victoire ensuite en Australie. 42-26 et au Japon 42-15. On rappelle comment ça se passe. Ils ont joué trois matchs maintenant. Il y aura trois matchs en novembre. Il y a un classement et la meilleure équipe de l'hémisphère sud affrontera la meilleure équipe de l'hémisphère et nord. Puisqu'il y a des classements, c'est comme les conférences en NBA. Tous les voyants sont au vert, Pierre, pour l'instant.
On est en tête du nord, donc c'était l'objectif. Il y a eu la défaite contre la Nouvelle-Zélande, tu l'as dit, mais avec un double bonus défensif et offensif qui permet aux Bleus d'avoir 12 points et donc d'être devant l'Écosse et l'Angleterre et d'aborder cette deuxième phase en étant premier. Il y aura ce match face à l'Afrique du Sud, notamment au milieu du mois de novembre, qui sera très très important pour se qualifier, parce que ce week-end de finale à Twickenham, c'est une grande répétition aussi, un peu moins d'un an avant la Coupe du Monde.
Tiens, et il y a un garçon qui nous rejoint qui doit se dire, ah, tous les voyants sont ouverts peut-être pour moi aussi, qui doit être peut-être avec un petit décalage horaire également, un petit jet lag de retour de l'hémisphère sud, c'est Aaron Grandidier, ailier du 15 de France, qui est avec nous. Aaron Grandidier de Canang, salut Aaron.
Salut tout le monde.
Bonjour Aaron.
Bonjour Aaron.
Et merci d'être avec nous. Tiens, ça va déjà? T'as récupéré du jet lag?
Ouais, ça va. J'ai pas mal dormi dans l'avion, donc je suis assez bien calé sur la française là.
Il voyage pas dans les mêmes conditions que toi, genre, je t'inquiète pas.
Ouais, c'est
bien,
ça.
Il était bien allongé.
J'ai trop de mauvaises expériences. Bon, Aaron, franchement, parfait pour toi, parce que deux premières sélections avec le 15 de France, et notamment une première sélection contre l'Australie fêtée par deux essais. Tu sais, pour nous, c'était le matin, mais on a tous vu, on l'avait vécu sur RMC, ton émotion après la rencontre. Tu réalises enfin quelques jours après ce que tu as vécu?
Oui, là c'est bon. Je me rends compte de ce qui s'est passé. C'était vraiment un rêve de gosse qui s'accomplit, et du coup pour moi c'était énorme.
C'était comment sur le terrain? Tu le racontes?
Oui, donc honnêtement, pour moi, beaucoup de stress, beaucoup d'excitation et un mélange d'émotions. Et je pense que d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que l'émotion à la fin du match est aussi costaud. Mais ouais, donc une première mi-temps où ils nous ont un peu surpris sur leur intensité et engagement, et puis. La deuxième mi-temps, on a pu répondre présent Et c'était 30-0 la deuxième mi-temps.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas mal, ouais.
C'est correct.
Ça veut dire que vous avez réagi. Ça, c'était contre les Wallabies avant le match contre les Japon ce week-end. Stephen.
Aaron, t'étais pas trop dépaysé quand t'es arrivé sur le terrain. T'as vu tes deux coéquipiers palois, Atis Ogbe de l'autre côté et Bro Boiry au centre. Ça va faire du bien. C'est rassurant de jouer avec des mecs qu'on connaît.
Oui, bien sûr. Après, Fab et Théo, comme vous le dites, j'ai l'habitude de jouer avec eux. Mais ça restait un nouveau système, un système que j'étais toujours en train d'apprendre. Donc ouais, non, ils m'ont aidé. C'était super sympa d'avoir des coéquipiers sur le terrain en même temps que moi.
Aaron, est-ce que tu as senti que c'était différent d'une tournée, même si tu n'en avais pas joué avant, mais est-ce que tu as senti de l'implication, le fait que Fabien Galthié reconduise les cadres aussi match après match? Il n'y a pas eu d'énormes rotations, il y a 7 joueurs qui n'ont pas joué, on le rappelle, sur cette tournée. Il y avait une vraie volonté d'aller gagner et de bien se lancer dans cette compétition?
Oui, absolument. Je pense que maintenant que c'est une réelle compétition, avec une trophée à la fin, tout le monde a envie de le gagner. Et ça se voit à travers toutes les nations. Et donc, ouais, nous, c'était absolument la volonté de prendre le plus de points possible et d'entamer la deuxième partie en novembre. Avec le plus de points possible.
Ouais, t'as raison de dire que c'est pris au sérieux par les grosses nations, parce que dans l'hémisphère sud, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande ont fait un sans faute pour l'instant. Ils ont gagné leurs trois rencontres. On est avec Aaron Grandrienne-Canang, ailier du 15 de France et de la section paloise, qui est avec nous. Accessoirement champion olympique aussi. En rugby à 7, hein, souvenez-vous.
Il a chanté des belles Marseillaises, lui.
Hein. À Paris 2024.
Pour être champion olympique, la Marseillaise avec le 15 de France. Aaron, ouais. Ça se passe plutôt bien pour l'instant le rugby pour toi.
Ouais, écoute, je me sens extrêmement reconnaissant de vivre ces émotions et ouais, c'est des moments incroyables et je suis vraiment fier de représenter le rugby à 7 aussi.
Rugby à 7, c'est définitivement terminé ou Los Angeles 2028, il y a peut-être une petite musique dans ta tête?
Moi, j'aimerais bien défendre le titre. Je pense que c'est pas un secret, tout le monde est au courant. Donc, ouais, moi, j'aimerais bien faire partie de cette équipe qui va défendre le titre olympique.
Le problème, Aaron, c'est que dans le 15 de France, ton concurrent, c'est Biel Biarré, et en rugby à 7, ton concurrent, ça pourrait être aussi Louis Biel Biarré.
oui, non, mais de toute façon, que ce soit en rugby à 7 ou rugby à 15, la concurrence en France, elle est extrêmement rude et c'est ce qui fait que l'équipe de France est aussi forte au final.
Aaron, là on parle de Los Angeles 2028, mais avant il y aura la Coupe du Monde en Australie de rugby à 15, évidemment. Là en étant en Australie, on doit forcément y penser. C'est quoi les mots de Fabien Galthié avec toi? Il te parle aussi de ça, des besoins qu'il peut avoir en vue de la compétition dans un an, qui compte sur toi? Qu'est-ce qu'il te dit?
Non, on n'a pas eu des discussions qui se projetaient aussi loin. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment de me concentrer sur cette tournée et de prendre le plus d'expérience possible, parce que mine de rien, avec toute la concurrence qu'il y a en France, comme tu l'as dit, donc c'est jamais certain de garder le maillot. Donc moi, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre et pris. J'utilise ça comme
préparation, en tout cas comme une façon de rentrer aussi dans cette équipe.
Oui, préparation, mais une certaine motivation aussi, parce que maintenant que j'ai goûté, j'ai envie de porter le maillot le plus possible, forcément.
Évidemment. Pierre,
on a évoqué, Aaron, tes coéquipiers palois. Il y en a un qui impressionne, c'est Fabien Broboiré, qui a 20 ans, qui s'est imposé au centre de l'attaque tricolore, en plus en jouant en 13, alors qu'il joue plutôt en premier centre avec la section paloise, votre club. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? On l'entend peu parler, mais on a l'impression que là, il est parti pour sans sélection avec le 15 de France.
Bah, moi, je suis pas étonné. Hein. Moi, je m'entraîne avec lui au quotidien. C'est un crack, Fab. Et franchement, il a tout pour lui. Et ça m'étonnerait pas qu'il ait une carrière énorme avec énormément de sélections pour l'équipe de France.
On est avec Aaron Grandrienne-Canang, l'ailier du 15 de France et de la section paloise avec nous, hein, après les trois matchs du 15 de France dans l'hémisphère sud. Aaron, c'est vrai que cette équipe de France, elle avait besoin notamment de se renforcer dans le jeu aérien. Et c'est vrai que vous, les palois, là-dessus,
vous êtes
quand même bon. C'est quoi, en fait, à l'entraînement, vous entraînez à rien au sol? Vous vous envoyez que des grandes louches dans le ciel? Comment ça se passe à Pau?
Bah écoute, je pense que à Pau, déjà, en fait, c'est devenu partie de un peu notre culture au club. On passe pas mal de temps après l'entraînement en bonus à s'entraîner. Et je pense que justement, le fait d'avoir autant de profils un peu aériens avec avec Théo, Greg et Jack et Jack Maddox et puis tout le monde en soi, donc on se booste tous pour qu'on améliore nos performances, et je pense que c'est cette compétition entre nous aussi qui nous drive.
Aaron, t'étais rookie, j'utilise rookie parce que je sais que t'aimes bien le basket, donc tu dois savoir ce que ça veut dire. T'étais rookie avec le 15 de France, est-ce que t'as eu le droit à un petit bizutage?
Il y a un sketch à faire en la première fois que tu es appelé en groupe.
Ouais.
Okay.
Donc je l'ai fait en novembre, mon sketch.
Un sketch, c'est incroyable. Non, mais il faut l'écrire et tout. C'est quoi l'histoire?
Un sketch marrant.
Ouais, enfin, il y a beaucoup de liberté artistique, on va dire.
Mais c'est quoi? Mais c'est le Comedy Club, le 15 de France, en fait, quand t'arrives.
Donc, bon. Ouais, je l'ai fait à ce moment-là. Et après, sinon, pour la première cape, c'est juste des discours.
Bon, tu nous racontes la blague, c'est horrible. Tu nous racontes la blague que t'as faite.
Refais-le ton sketch, alors, Aaron, sur RMC.
Ah non, je pense que c'est mieux que...
Ouais. Le piège.
C'est mieux, ça reste
garde ça à Marcoussi, c'est très bien.
T'as raison. Pierre, il y a la question avec Aaron.
Non, mais tu nous parlais un peu de la concurrence, et c'est vrai que les cadres vont revenir, même s'il y en avait beaucoup dans cette tournée, mais beaucoup de cadres vont revenir en novembre. J'imagine que t'as pas la certitude du tout d'y être dans ce prochain rassemblement, mais toi, ça doit être un objectif. J'imagine de continuer cette aventure en bleu et de t'imposer, même si la concurrence est très dure.
Oui, exactement. Aujourd'hui, je suis très conscient des mecs qui sont autour de moi et qui sont devant moi. Donc, je sais que ça va être très dur, et j'estime que j'ai eu de la chance de pouvoir aller me chercher une sélection cet été. Mais voilà, moi, mon objectif, c'est d'y rester le plus longtemps possible. Et ça va passer par je vais devoir faire un bon début de saison pour assumer cette position-là.
Tiens, Aaron, avant de se quitter, tu sais que nos auditeurs nous envoient des messages. Alors, soit ils nous appellent au 3216 ou sur WhatsApp au 06 12 424 424. Paul Genebès me dit: bravo à toi, Aaron, pour ta saison avec la section et ta sélection avec les Bleus. Je suis vraiment et tellement fier de supporter un club avec de tels joueurs. T'as compris que c'était un Palois qui nous envoyait ce message. Il y a une grosse fierté, on sent à Pau autour de vous, les gars. Il se passe un truc. Vous devez prendre du plaisir, hein, c'est une petite famille.
Oui, non, absolument. C'est une vraie fierté de représenter le Berne, et c'est un club qui m'a donné énormément d'amour et de force. Et aujourd'hui, je suis super fier de porter les couleurs de la section. Et là, avec la prolongation de beaucoup d'entre nous, en plus, le projet, il se construit. Et je pense que les dernières années, ça montre le potentiel que le groupe il a, et j'espère que cette saison, ça sera une saison encore plus belle que la dernière, mais voilà, step by step. Et merci à tous les supporters pour tous leurs messages, parce que c'est fou le soutien que j'ai reçu là pendant les 2-3 dernières semaines, ça a été énorme. Donc voilà, un gros merci aussi à tout le monde pour la force.
Et Aaron, l'année prochaine, tu vas aller voir le Lambernais qui est remonté en première division basket un peu?
Mais bien sûr, j'y ai été plusieurs fois cette année et je me régalais déjà. Donc l'année prochaine, ça va être un cran au-dessus, et je serai là. Je serai là pour les encourager.
Bravo.
Ah, c'est une grande ville de sport, hein, pour.
Sure Caron, il met des grands dunks, il met des énormes dunks.
Vous avez joué au basket un peu en Australie, non? On arrive,
ouais,
on a vu des images.
On me l'a fait un petit peu, ouais. J'ai pris un poster par. C'était Mo Mathieu.
Ah oui.
Ah ouais, tu t'es fait dunker dessus? Mais arrête, t'es connu.
Ouais, je me suis fait dunker dessus, salement.
Ah, ah, en tout cas, ce qui est costaud quand même, c'est de le raconter direct. Je me suis posterisé, parce que celui qui se fait posteriser, il ne le fait pas toujours.
Ah oui, ouais.
C'est l'été, voilà. Même LeBron James, il se prend des dunks sur la tête.
Mais ça veut dire qu'au moins Aaron, il a tenté d'aller au contre, parce que tu prends jamais de poster,
et
tu vas pas au contre.
Et le contre sur Thémo Mathieu, faut y aller, parce que
tu laisses une épaule.
Mais j'étais choqué, il a une explosivité, Thémo, c'est abusé.
Bon, j'ai l'impression que je vais utiliser une phrase générique, j'ai l'impression que le groupe vit bien, et c'est parfait. Super. Pour le 15 de France, bravo, merci à toi, Aaron, et merci d'avoir été avec nous.
Ça va bien.
Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.
Bonne soirée à toi, Aaron Grandidier, Canang, l'ailier du 15 de France et de la section paloise, champion olympique du rugby à 7 avec nous. Sympa, hein, c'est bien de découvrir aussi de nouvelles personnalités. Il y a de nouvelles personnalités intéressantes quand même, hein, je trouve, dans cette équipe France.
Bon gamin, j'ai senti bon gamin.
Ouais.
Non mais tu vois, il parle bien.
C'est quoi, en fait, chaque invité, tu vas dire bon gamin, mauvais gamin.
Exactement, Richard Virenque, belle surprise, Aaron Grandidier, oui. Il fait une très belle émission, Aaron Grandidier.
Non mais tiens, Pierre Thévenet, il nous reste quelques minutes. C'est vrai qu'on a suivi ces matchs du 15 de France avec Aaron, notamment, qui fait peut-être partie des gagnants, hein, oui. On peut le dire, de ces trois matchs. Il y en a d'autres, des joueurs qui ont marqué des points dans l'esprit de Fabien Galthié. On a un an de la Coupe du Monde.
Hein. Oui, parce que Aaron Grandidier a certainement marqué des points, mais il a peut-être la mission la plus dure. Tu le disais, Stephen, c'est d'avoir le même numéro dans le maillot que Louis Bielbiaré. Donc évidemment que sa place va être dure à conserver. Il y en a un autre, on l'a évoqué, c'est Fabien Brobouary, qui a 20 ans, qui avait deux capes en bleu pendant le tournoi Destination. Il est arrivé dans cette tournée, on s'est dit que Moefana Deporter, l'attelage bordelais, partirait titulaire, et en fait Fabien Brobouary a joué titulaire les trois matchs en numéro 13 jusqu'à sortir Deporter du groupe, puisque c'est Calvin Gourg qui est entré sur le banc. Donc lui certainement a marqué des points, et ça pourrait être l'association des prochaines semaines. Il y aura Moefana, Fabien Brobouary au centre. Il y a également Marco Gazzotti, le jeune bordelais en numéro 8, qui a été très bon sur les deux premiers tests, qui a été décalé ensuite en troisième ligne, et lui pour le coup profite d'un poste qui est un petit peu dépeuplé avec l'absence de Greg Aldrit. Avec il y a Mickaël Guillard, il y a Charles Olivon, mais personne ne s'est vraiment imposé sur les derniers mois, donc lui aussi a une très belle carte à jouer. Et puis le dernier à noter, c'est Jefferson Poirot, le pilier bordelais de 33 ans, qui est revenu 6 ans après sa dernière cape.
C'est fou,
qui avait pris sa retraite internationale et qui lui pour le coup prend une place derrière Jean-Baptiste Gros, pilier gauche titulaire du RCT, et sans doute qu'il aura du temps de jeu dans les prochaines semaines.
Dis-moi la Tève, puisqu'on a vu une association Entamac Jalibert.
T'imagines s'il y avait
Ça remet dans la tête de Fabien Galthié la possibilité de faire jouer les trois en même temps, Antoine Dupont, Romain Entamac et Mathieu Jalibert?
Pour ça il faudrait sortir Thomas Ramos, et je ne vois pas personnellement Fabien Galthié sortir Thomas Ramos, qui est on le dit dès qu'il joue, on le dit, c'est peut-être lui le meilleur joueur du 15 de France, le record man de points, 563 points en bleu. Il met plus de 11 points par match depuis qu'il a commencé en bleu. Rappelez-vous sa pénalité décisive contre l'Angleterre. On est bien content que ce soit lui qui la prenne à quasiment 50 mètres. Maintenant, Fabien Galthié a voulu et réussi à faire jouer Entamac et Jalibert ensemble.
Mais il n'y avait pas Dupont.
Non, mais même avec Dupont, je pense que ça aurait pu fonctionner également. C'est plutôt Ramos le problème, dans le sens où ils sont trois pour deux postes, en fait, finalement.
Et donc il y aura encore un déçu.
Et là où je trouve que c'est un petit peu inquiétant pour Mathieu Jalibert, c'est que c'est Romain Entamac qui a pris le 10.
Oui.
C'est-à-dire que Mathieu Jalibert a joué en 10 le premier test.
Oui, et après il sort.
Dès que Romain Entamac arrive, c'est lui qui reprend ce 10-là. Et Romain Entamac, c'est le demi d'ouverture de Fabien Galthié depuis le début de son mandat.
Tu penses que c'est un petit signal, ça? C'est un petit message?
C'est toujours Romain Entamac qui a eu les clés du jeu de Fabien Galthié quand il pouvait être là. Et il n'a pas encore eu l'opportunité de jouer une grande compétition, puisqu'il s'est blessé en 2023 au genou, même s'il avait joué 2019 quelques matchs. Je pense que dans l'esprit de Fabien Galthié, Romain Entamac reste le numéro 1.
Qu'est-ce que doit faire Mathieu Jalibert? Parce qu'il a tout fait, en fait. Tour de destination, il a été merveilleux.
Oui, non, mais après, c'est un problème de riche qu'on a également, et que Romain Entamac, c'est le quadruple champion de France en titre, c'est l'assurance touriste en défense, c'est l'association avec Dupont et Ramos. Les deux ont des cartes à jouer. Jalibert est double champion d'Europe et a sans doute beaucoup plus de talent offensif, donc ça va être un vrai choix, mais pour une fois en équipe de France, on a vraiment des possibilités quasiment infinies à ces postes-là. On se dit que si Thomas Ramos se blesse, ce qui aurait été une catastrophe il y a encore trois mois, on se dit que maintenant Mathieu Jalibert est capable d'assurer
Tu te rends compte, Jalibert et Entamac qui jouent ensemble, il n'y a pas de super moscato show ensemble, là ça nous aurait fait des débats. On aurait dit quoi déjà? Est-ce que Tamac a récupéré sa place? Est-ce que Jalibert va jouer à l'arrière?
Mais
l'autre problématique, c'est que Maxime Lucu a encore une fois été magnifique. Lui aussi, c'est la même problématique que Maxime Lucu, c'est que c'est le même poste qu'Antoine Dupont. Et donc toute sa vie.
Mais de toute façon,
écoute, tu sais, rappelle-toi ce qu'avait dit le sélectionneur quand il était venu dans le SMS, dans le super moscato show, prenez soin d'eux. Il a dit ça en étant très sérieux en regardant Pierre Dorian. Il était beaucoup moins sérieux.
Le petit Montagne était bon aussi.
Mais Régis Montagne, très bon. Il a été titulaire au dernier test, donc face au Japon, qui était une opposition un petit peu moindre que ce qu'a connu Demba Bamba, qui a été en difficulté sur les deux premiers tests. Mais en effet, il a été plutôt bon. Et c'est vrai que ce poste de pilier droit dont on parle beaucoup, c'est un vrai chantier. Et Fabien Galthié l'a reconnu en disant qu'il testait des solutions. Mais on a vu Demba Bamba, Régis Montagne, Falatea, Tatafou, il y a Aldeguerri également. Il y a beaucoup de monde. On a du mal à voir un joueur sortir.
On parle du 15 de France, on parle de rugby, on était à quelques instants avec Aaron Grandidier Canang, l'ailier des Bleus, qui a découvert ses premières sélections et qui nous a dit, c'est intéressant, hein, que pour l'instant il voyait les grosses équipes jouer à fond cette nouvelle compétition, ce nouveau championnat des nations. Si vous suivez le rugby d'un peu loin, que vous suivez le foot, c'est un peu comme la Ligue des Nations. En fait, hein, on a créé une compétition pour que les matchs amicaux, les test matchs, aient un peu plus d'enjeux. Pour l'instant, les grosses nations, je disais, l'hémisphère sud font le travail. Pour l'instant, c'est quoi ? C'est donc l'Afrique du Sud est en tête, hein, du côté de l'hémisphère sud. Pour l'instant, ça montre quelque chose quand même des forces en présence sur l'échiquier. On a un an et demi, je disais, de la Coupe du Monde. C'est quoi ? C'est nous. Et les Sudaf, encore une fois, pour l'instant.
Pour moi, c'est les Sudaf et le reste, quand même. Ah ouais, même si on est juste, je pense qu'on est en deuxième avec, moi, je mettrais les Sudaf au-dessus, la France et la Nouvelle-Zélande ensuite, et l'Écosse et l'Angleterre et l'Australie, un cran de soupe, actuellement, sur ce qu'on voit. Maintenant, les Sudaf, ils déploient une espèce de puissance. Ils ont fait tourner leur effectif sur les trois matchs, face au Pays de Galles. C'était une équipe complètement remaniée, face à l'Écosse aussi. Ils gagnent, ils enfoncent les mêlées de tout le monde.
Et son champion du monde du vin,
en nous battant en finale.
Ils ont battu, ouais.
Et double champion du monde.
Donc, ils ont un réservoir qui arrive aussi.
C'est un petit peu de terrifiant sur la suite. En tout cas, ils me paraissent encore au-dessus du lot.
Les Sudaf, on peut les jouer deux fois.
On peut les jouer deux fois en 15 jours.
On est premier du Nord, on les rejoint en finale.
On va jouer les Fidji à Lyon. Ensuite, on jouera l'Afrique du Sud au Stade de France, puis l'Argentine au Stade de France. Et il y aura ensuite ce week-end de finale à Twickenham où on peut retrouver en effet les Sudaf. Si on est premier du Nord et qu'ils sont premiers du Sud, on les retrouvera en finale.
7, 13 et 21 novembre pour les prochains matchs, donc face aux Fidji, Afrique du Sud, Argentine, tu l'as dit. Tiens, on a Paul qui nous appelle au 32-16 des Pyrénées-Atlantiques de Pau, justement. Ah. Salut Paul.
Bonjour Paul.
Bonsoir tout le monde.
Ah bah c'est toi qui nous as envoyé le message pour Aaron. T'as vu, on lui a passé le message. Hein, il t'a écouté. Il était très heureux, évidemment, de sentir le soutien qu'il sent tous les jours des supporters de la section, notamment. Bon, tu la trouves comment cette équipe de France là, effectivement, avec Jalibert notamment et Tamac qui ont joué ensemble. L'enthousiasme quand même, hein.
Ah bah j'ai discuté avec mon directeur cet après-midi, pas plus tard cet après-midi. C'est la première fois que même par exemple au poste de 9, on ait autant de joueurs qui puissent être... on a un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Alors qu'il y a une dizaine d'années à peu près, on avait du mal à trouver la charnière, à trouver la bonne combinaison. Il y a eu plusieurs tests, plusieurs 9, plusieurs 10, est-ce que ça marche, est-ce que ça passe pas. Il y a eu des essais avec Parra, avec Machenon, avec Camille Lopez. Enfin, ça passait pas toujours. Et puis là, maintenant, j'ai l'impression que cette équipe, elle est sereine. Elle est sereine parce qu'il y a une qualité de travail et surtout qu'on a des entraîneurs comme Sébastien Kigorniz. C'est un cadeau qu'on
a. Entraîneur de la section palois. Et puis toi, elle te plaît, parce que t'as trois palois, Titu, avec Atis Ogbe,
Radou qui est pas loin aussi.
Et Broboire, il est plus sur Radou. Elle te plaît.
Quand j'ai vu la feuille de match face à l'Australie, il manquait plus qu'Emilien Gaëtan à l'arrière.
C'est assez.
Dis-moi, Paul, par contre, tes journées au boulot, là, à débriefer les matchs de l'équipe de France, avec le directeur, ça se passe comment?
C'est les fans, voilà, c'est bien, c'est les passionnés. C'est-à-dire qu'au boulot, à Pau, c'est une ville tellement sportive, évidemment que c'est des sujets qui arrivent sur la table, évidemment. Merci Paul d'avoir été avec nous au 32-16. Évidemment, c'est une équipe de France en plus qui est représentée par plein de clubs, donc où je pense que beaucoup de supporters aussi
beaucoup
se sentent représentés
et, plein de
et identifiés. Non, mais voilà, il y a des joueurs de l'UBB et tout, bien ça, sûr. Il y a quand même du monde. Merci Pierre Thévenet d'avoir été avec nous. Merci Steve.
Merci Georges, on se retrouve demain.
Demain, exactement, 18h, 19h. On ne laissera pas tout passer, on a été sympa aujourd'hui, hein, mais j'ai quand même noté Richard Virenque dire la lampe de rancement.
Oui,
voilà, on fera attention.
Spécial, ça.
Et Aaron Grandidier nous dire qu'il jouait dans le Berne. Voilà, oui, c'est pas
il est anglais, en anglais au départ.
Je t'ai pas donné l'homme parce qu'on travaille l'émission de demain. Ouais. Freddy Fautou sera avec nous demain.
Ah, magnifique, le sélectionneur de l'équipe de France de basket. Alors que Wemby revient pour la première fois depuis les Jeux.
Exactement.
Extraordinaire.
On en parlera avec Freddy Fautou parce qu'il sera en direct des États-Unis en vacances.
Ouais, écoute, bravo à lui. Tiens, il en parlera avec nous demain, évidemment, dans l'Intégral Sport avec le tour qui reviendra tout de suite. C'est Gilbert Bribois qui s'installe avec ses équipes. C'est l'After Foot qui arrive dans un instant. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.